Bien, d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année à tout le monde ici. Je vous avais laissé la fois précédente, je dirais l'année dernière, puisqu'il y avait eu des vacances, sur un espèce de panorama du monde au début des années 1880, en effet, est un moment essentiel, enfin, tout moment est essentiel en histoire, d'ailleurs, c'est... Mais on a l'impression que beaucoup de choses se font, se défont, se construisent aux alentours de 1880. C'est le moment, j'ai raconté la dernière fois, me semble-t-il, où vraiment explosait ce qu'on appelait la première mondialisation, enfin ce que nous avons appelé postérieurement la première mondialisation, celle de l'électricité, c'est-à-dire celle du temps réel, puisque maintenant le télégraphe impose une uniformité du temps à l'ensemble du globe. C'est à la fin du 19e siècle que se construit notre système de fuseaux horaires, de limites de partage des dates, et ainsi de suite. Alors, comme toute période dans l'histoire, nous avons toute une série de paradoxes. D'un côté, nous avons les progrès de l'alphabétisation dans les sociétés industrielles, ce qui fait qu'aux alentours de 1880, les sociétés industrielles deviennent des sociétés de masse. On entre dans l'ère des masses, la démonstration est en fait par le fait qu'à partir de cette période, vous avez des organes de presse, des journaux qui, en Europe ou aux États-Unis, tirent à plus d'un million d'exemplaires. Donc les tirages de presse de la fin du 19e siècle sont bien supérieurs à nos tirages actuels. C'est le moment paradoxal où d'un côté, par exemple en France, mais aussi le cas dans l'ensemble de l'Europe, l'État reconnaît d'une part l'existence des petites patries, comme on dit, des petites patries locales. Pensez en France, par exemple, Mistral et le Félibrige sous la Troisième République. Donc, reconnaissance des identités locales, mais en même temps, une homogénéisation croissante de la société, par la presse, par le service militaire, la conscription, par différents moments. C'est dans des pays comme la France la période de l'apogée du patriotisme. Un grand historien récemment décédé, François Caron, avait fait un livre sur la France de cette période en l'appelant « La France des patriotes ». Parce que c'était le thème qui réunissait aussi bien la gauche que la droite de cette première décennie de la Troisième République. Donc, le sommet du patriotisme, un patriotisme qui, évidemment, peut dégénérer. En France, on dit chauvinisme. En Angleterre, on dit jingoïsme. Mais c'est bien aussi ce sentiment de violence nationale, presque, qu'exprime le chauvinisme, le jégoïsme, contrairement au patriotisme. Mais surtout, 1880, c'est en Europe le moment d'apparition. Alors, j'avais intitulé ça il y a déjà une trentaine d'années, mais ça n'a jamais marché. C'est encore une des grandes déceptions. J'avais créé un mot, mais il ne prend pas racine, pourtant il est beau. C'est l'apparition de ce que j'ai appelé les idéologies autentitaires. C'est-à-dire ces idéologies qui sont largement antimodernes, c'est-à-dire qui contestent les résultats de la modernité, des progressistes, et qui se revendiquent d'une nostalgie d'un temps ancien qui est évidemment complètement imaginaire, totalement inventé. L'antimodernisme est évidemment une pure illusion et ne correspond pas aux réalités. Et les authentitaires, Les anti-modernes ne dénient pas les instruments de la modernité. En France, par exemple, l'ordre de l'Assomption, qui tient la croix, etc., et en même temps l'ordre monastique le plus moderne d'Europe, qui organise des gigantesques pèlerinages en chemin de fer, des pèlerinages en Terre Sainte en bateau, qui introduit l'électricité à Jérusalem, et ainsi de suite. Les anti-modernes ne sont pas des anti-techniques. Ils utilisent les produits de la technique pour contester la modernité. Alors, on peut voir la façon dans laquelle ces idéologies authentitaires se déclinent dans les différentes parties de l'Europe. C'est vers 1880 qu'apparaît le terme d'antisémitisme, puisqu'il a été forgé en Allemagne en 1879, qui, en Russie, c'est encore un anti-judaïsme qui se combine avec le modèle national de l'Europe orientale. Donc, je rappelle la juxtaposition d'une culture exprimée par une langue et d'une religion, ici l'orthodoxie. Pour être russe, il faut parler russe et être de religion orthodoxe. Si vous êtes juif, vous pouvez parler parfaitement russe. Vous n'êtes pas russe parce que vous n'êtes pas orthodoxe. Et la Russie est très intéressante parce que c'est la Russie du 19e siècle qui a inventé la grande dichotomie qui continue de travailler le monde jusqu'à aujourd'hui, avec l'opposition entre les slavophiles qui revendiquent une authenticité locale s'inscrivant dans l'histoire longue de la Russie, et les occidentalistes qui veulent au contraire que la Russie rattrape l'Occident et en adopte toutes les pratiques de la modernité. Donc l'opposition entre occidentalistes et slavophiles, c'est l'opposition que nous rencontrons encore aujourd'hui entre ceux qui défendent des authenticités largement imaginaires des sociétés du monde par rapport à une modernité définie comme étant occidentale. Pensez par exemple aux valeurs islamiques ou aux valeurs asiatiques dans les discours d'aujourd'hui. Mais cette opposition, elle s'est construite à partir du milieu du 19e siècle en Russie. Et les slavophiles, donc dans la lignée du romantisme européen, germanique surtout, et le premier mouvement de rejet de l'occidentalisation en opposant le génie des peuples, ou du peuple évidemment. Alors, les juifs et autres halogènes, même s'ils parlent russe, ne peuvent devenir russes sauf par conversion. Et en même temps, on a vu combien la slavophilie et le panslavisme étaient devenus l'instrument d'une politique conservatrice face à l'intelligentsia libérale ou révolutionnaire qui, elle, se veut championne de la modernité. Et la guerre de 1877-1878 avait été en quelque sorte l'apogée du panslavisme et de la slavophilie, puisqu'elle a conduisait à créer un État slave par excellence, qui était la Bulgarie. Si vous allez à Sofia, vous voyez cette image de slavophilie et d'orthodoxie qui est profondément marquée dans cette période. Alors, 1880, c'est aussi donc l'émergence de l'antisémitisme en Allemagne. Comme le peuple allemand est divisé entre catholiques et protestants, et même si les catholiques ont été un moment considérés, enfin que les protestants ont été un moment considérés dans l'Allemagne de Bismarck comme les meilleurs des Allemands, les catholiques étant des Allemands de moins bonne qualité, c'est ce qu'on appelle l'époque du Kulturkampf, du combat pour la culture dans les premières années du Second Reich, là, il n'est pas question d'identifier la germanité à une religion, puisque sinon le peuple allemand serait divisé en deux parties. Et d'autre part, la germanité permet justement de s'étendre à l'extérieur des frontières du Second Reich, en particulier la partie germanophone de l'Empire austro-hongrois. Donc, alors que dans les années 1860, l'opposition avait été forte entre l'Autriche et la Prusse, et Sadowa avait rejeté l'Autriche en dehors de l'Allemagne, autant à partir de 1880, dans une identité germanique commune, les Allemands et les Autrichiens de langue allemande se rapprochent du point de vue de l'identité. Donc, l'identité allemande va être définie par la langue et la culture, et c'est en Allemagne que se crée non seulement l'antisémitisme, mais aussi un début de rejet du christianisme qui conduira aux excès terribles du nazisme, puisqu'on va inventer une authenticité allemande antérieure à la christianisation en faisant l'apologie de la germanité à l'époque romaine. Donc Tacite va devenir paradoxalement l'auteur préféré des germanophiles, parce que Tacite avait écrit la Germania. Donc l'antimodernisme allemand va pousser jusqu'à construire une vision raciale irréductible à la modernité dangereuse. Et tout ça se traduit de façon extraordinaire sur le plan artistique par l'œuvre de Richard Wagner, qui est l'apologie de la germanité et souvent d'une germanité dans le Ring qui est antérieure au christianisme. Et on sait combien Wagner était antisémite et combien pour lui le juif corrompait l'authenticité allemande. Et puis c'est toujours dans ces courants de germanité et de redécouverte de la Germanie que se développe une contestation de ce qu'on appelle déjà à l'époque le judéo-christianisme. Puisqu'on a ces courants qui vont devenir des courants néo-païens, vont dire que les juifs et les chrétiens ont corrompu l'identité allemande. Bon, là, on n'est qu'au début, évidemment, de ce qui conduira au nazisme. Alors, en France, l'antisémitisme, passant de sentiment individuel à expression collective, est un peu plus tardif. La France juive de Drummond est de 1886, le grand livre de l'antisémitisme français. Si l'antimodernisme est un caractéristique de ce qui va prendre le nom de nationalisme en France par opposition aux patriotes, on ne peut pas définir, contrairement à l'Allemagne, la France par une race. Parce que vous avez des Celtes, des Latins, des Germains et des tas d'autres choses, comme dirait Renan, des hybrides de nations un peu partout en France. Donc, les doctrinaires du nationalisme n'ont pas la religion, comme en Russie, ils n'ont pas la race, comme en Allemagne, donc, qui vont renvoyer à l'histoire pour définir l'authenticité française, c'est la fameuse thèse de la terre et des morts que vient bientôt incarner Barrès, et qui est donc ce renvoi à l'histoire qui conduira à définir une partie de la société française comme allogène, n'appartenant pas à la terre et aux morts. Donc les juifs, les protestants et les francs-maçons, les trois éclats, selon Charles Maurras, un peu plus tard, vers 1900, à peu près. Donc, on voit que, aussi bien dans les cas russes, allemands et français, l'antimoderniste authentitaire conduit à un rejet d'une partie du corps social que l'on définit comme étranger par nature. Je vous parle de 1880, hein, vous comprenez bien. En Grande-Bretagne, on n'a pas, à cette période, l'émergence d'une pensée authentitaire, mais plutôt l'exaltation de la supériorité de la race anglo-saxonne, à qui la domination du monde est donnée une fois qu'on ajoute à cet ensemble les États-Unis. C'est donc ce qu'on appelle « Greater Britain », la plus grande Grande-Bretagne, qui est le fait que l'ensemble de la race anglo-saxonne, aussi bien en Amérique du Nord que dans les îles britanniques, doit avoir la domination du monde, parce que tout le monde reconnaît universellement la supériorité des anglo-saxons sur le reste de l'humanité, y compris des auteurs français qui ont publié « À quoi se tient la supériorité des anglo-saxons ?» Et ce livre de Desmoulins, « Supériorité des anglo-saxons » a été immédiatement traduit en arabe vers 1880. Donc, le racialisme britannique ne se confond pas avec un projet étatique, mais une alliance d'États qui comporterait l'Angleterre, les Dominions à peau blanche, qui ont une autonomie croissante et qui sont de plus en plus reliés à la métropole, non pas par une relation de suggestion, mais par une identification culturelle. C'est ce qu'on appelle à la fin du XIXe siècle la « Britishness », la britannitude, dirait peut-être un ancien ministre, enfin un ministre français. Donc, cette Britishness, c'est ce qui fait la force de la liaison entre le Canada anglais, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et une partie de l'Afrique du Sud. Donc, c'est le moment où, dans le cadre de la première mondialisation, ces idéologies de l'authenticité se construisent dans un refus de la modernité, mais qui est en même temps le moment où, dans l'histoire, on n'a jamais eu une telle fluidité dans la circulation des personnes. Point fondamental, les deux seuls pays en 1880 qui exigent un passeport, c'est l'Empire ottoman et l'Empire russe. Le reste, vous circulez sans passeport. Et comme l'ensemble du monde civilisé fonctionne en monnaie or, les questions de change ne se posent pas. Donc, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, vous pouvez embarquer sur un coup de tête à Beyrouth et vous retrouver à Ellis Island dans 3 semaines. Sans avoir un contrôle d'identité, sauf à l'arrivée, hein, Ellis Island, pour l'examen final avant l'entrée sur le sol des États-Unis. Alors, la grande immigration vers les Amériques, elle a plusieurs phases. La première phase, qui en gros va de 1820 à 1880, est une immigration de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Nord vers l'Amérique du Nord. Donc, en dehors des Anglais, enfin des gens des îles britanniques, parce que vous avez quelques millions d'Irlandais dans l'eau, vous avez énormément d'Allemands et énormément de Scandinaves qui émigrent vers les États-Unis avant 1880. Après 1880, l'Europe du Nord cesse d'être le courant principal d'immigration, la quantité baisse, et la relève est prise maintenant dans cet extraordinaire arc géographique qui va de la Baltique à la Méditerranée orientale. puisque tous les peuples qui vont donc de la Baltique, de la Pologne russe, de l'Ukraine, etc., évidemment des Balkans, l'Anatolie et le Proche-Orient, la migration de masse vers les Amériques commence à ce moment-là. On peut se demander pour quelle raison. La première raison, c'est que les connexions des réseaux sont maintenant effectuées. Vous avez tout simplement le fait qu'à partir de 1880, les réseaux ferroviaires de Pologne ou d'Ukraine, russes, sont connectés avec les réseaux de chemin de fer d'Europe occidentale. Et donc, si vous habitez à Plonsk, en Ukraine, vous pouvez partir de la gare de Plonsk et vous retrouver en 4 jours à Hambourg, où vous embarquez sur un navire allemand de la Hambourg-America à destination de l'East Island. Si vous êtes à Beyrouth, vous arrivez à Marseille, et de Marseille, vous prenez le train jusqu'à Cherbourg, et à Cherbourg, vous montez sur le Titanic, si vous êtes chanceux. 10% des gens du Titanic étaient Libanais. Donc, vous étiez les quatrièmes classes. Et quand j'étais encore au Liban en 2002, on prétendait qu'il y avait un vieillard dans la montagne libanaise qui était le dernier survivant du Titanic. On n'a jamais authentifié le cas, mais il y avait encore un monsieur en 2000 qui se prétendait être le dernier survivant du désastre. Aux États-Unis, l'arrivée de ces migrations de masse avait multiplié les catégories qu'on appelle à l'époque les Américains à trait d'union. Les Italo-Américains, les Germano-Américains, les Polono-Américains, etc. Et chaque émigration constitue un foyer culturel très lié à sa mère patrie, enfin à sa patrie d'origine, mais en même temps jouant la carte de l'intégration. Il ne faut pas avoir d'illusion. Les migrants sont entre deux mondes et ils conservent aussi bien une image forte de la terre de départ qu'ils acquièrent une image forte de la terre d'arrivée. Donc la multiplication des Américains à trait d'union. Alors pour l'histoire, une fois pour toutes, les Affinated Americans vont disparaître durant la Première Guerre mondiale dans la mesure où la communauté la plus importante d'Américains à trait d'union durant en 1914, ce sont les Germano-Américains. Et comme ils deviennent l'ennemi, ils perdent leur identité allemande. Et donc, c'est à ce moment-là que la notion de Germano-Américain disparaît. Alors qu'en réalité, des millions de WASP sont des descendants d'Allemands, ou encore M. Trump est un descendant d'Allemand. Et on oublie combien de millions de migrants allemands il y a eu au XIXe siècle. Alors évidemment, vous avez aussi les Juifs, et les Juifs allemands avaient émigré avec les autres Allemands avant 1880, et après 1880, ce sont les Juifs orientaux, enfin ceux de l'Empire russe, qui émigrent à leur tour. Et alors, les schémas sont les mêmes. Ils arrivent à Ellis Island, une fois sur Terre, ils ont un peu d'économie pour acheter de quoi faire du colportage. Et donc, ils partent faire du colportage sur les routes américaines. Et donc, historiquement parlant, on n'a jamais fait la parenté, mais pourtant c'est exact, le métier de colporteur, à la fin du XIXe siècle, les États-Unis étaient essentiellement occupés par des Juifs et par des Arabes qui viennent d'émigrer à Ellis Island. Et en 2 ou 3 générations, ils deviendront de riches bourgeois votants républicains, comme il se doit, parce qu'ils réaliseront le rêve américain. Alors, ça, c'est la migration, mais en même temps, en 1880, c'est la technique. On peut dire, si vous voulez, qu'après 1815, nous avons une dilatation du temps avec une résurrection des civilisations anciennes par le déchiffrement des écritures, déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, déchiffrement des cunéiformes 20 ans, 25 ans après par les Français, les Anglais, Rawlinson, etc. Et puis ensuite, les déchiffrements qui se continuent jusqu'à 1880, découverte de Sumer, 1900, découverte de la Crète minoenne, Schliemann, etc. C'est-à-dire que le 19e siècle, d'un seul coup, acquiert des milliers d'années d'histoire. Bon, on savait qu'ils existaient, on savait qu'il y avait des pyramides, mais on ne savait pas qui les avait fabriquées et pourquoi on fantasmait dessus. Tandis que maintenant, on lit les textes. Et l'un des grands travaux européens, c'est de faire venir en Europe toutes ces pièces d'archéologie monumentales qui viennent de l'Orient. On avait parlé de Layard, par exemple, qui avait apporté les fameux taureaux ailés au British Museum, mais on a des tas d'autres cas, etc. Donc, si on a d'un côté acquis des milliers d'années, donc on a dilaté le temps, en même temps, on réduit l'espace par les progrès des communications et par l'invention de l'universel. C'est le 19e siècle qui se construit comme universel. C'est-à-dire, si vous voyez les titres des ouvrages ou des institutions du 19e siècle, c'est le terme universel et pas international qui est utilisé. Au 20e siècle, on dira international. Mais on dit la compagnie universelle du canal de Suez dans le sens de compagnie internationale du canal de Suez. Et on fait donc, à partir de 1851, des expositions universelles. Elles se déroulent en Europe et en Amérique du Nord et parfois en Australie. Alors, le paradoxe des expositions universelles, c'est le fait que d'un côté, comme vous le voyez sur cette gravure d'époque, sur celle de 1879 à Paris, c'est le hall des machines, donc c'est la modernité absolue. Et c'est là, dans cette exposition universelle, qu'on montre des produits nouveaux de l'électricité et l'invention tout à fait nouvelle du téléphone. Donc, c'est la pointe de la technique et c'est l'Occident. Mais l'exposition universelle représente aussi les peuples d'Orient. Mais il les représente sous une forme du traditionnel. On rétablira des temples hindous, des temples khmers, des rues d'Alger, enfin, tout ce que vous voulez, des rues du Caire, dans les expositions universelles. À Paris, en 1878, c'est Paris, 78, pas 79, on a donc des gauchos argentins, des chinois et des japonais. Vous voyez, par exemple, des japonais à l'exposition universelle de Paris de 1878. Et évidemment, l'arrivée de l'art japonais va bouleverser l'esthétique européenne de la fin du 19e siècle. L'impressionnisme et ses développements ne se comprennent pas si on ne voit pas que ces gens ont sous les yeux l'art japonais. Vous avez aussi les peuples dits les plus primitifs. Et alors, on a, dans un souci scientifique, voulu représenter les peuples primitifs dans leur environnement. Le but de l'exposition universelle est de représenter aux gens, à des millions de visiteurs, ce que seuls des voyageurs peuvent voir sur place. Et donc, on ne parle pas du tout à cette époque-là de zoo humain pour la représentation des peuples dits primitifs d'Afrique ou d'Océanie. Évidemment, ces manifestations ont un côté à la fois commercial et constituent ce qu'on appellerait aujourd'hui une mise en récit. Mais il faut bien comprendre que ce sont avant tout une anthropologie une ethnologie destinée au grand public à une époque du triomphe de la science. Donc ces expositions universelles représentent à la fois le primitif, le traditionnel et le sommet de la modernité. Alors, cette liberté totale de circulation s'atténuera au début du XXe siècle, mais ne s'arrêtera définitivement qu'en 1914. Et jamais le monde ne retrouvera cette liberté de circulation qui a existé entre les dernières décennies du XIXe siècle et le début du XXe. C'est pour ça qu'on parle aussi d'une mondialisation des empires. Parce que, évidemment, c'est toujours vers 1880 les empires coloniaux deviennent des empires. D'abord parce qu'on commence à les appeler comme tels à ce moment-là. D'où le contresens que l'on peut faire parfois quand le mot impérialisme apparaît dans le domaine colonial, toujours aux alentours de 1880. L'impérialisme n'est pas à ce moment-là une volonté d'étendre géographiquement des empires, de les étendre. Il s'agit d'en renforcer la cohésion interne. L'impérialisme est une idéologie britannique qui, dans son premier sens, est la volonté justement de renforcer les liens entre les dominions, qui pourraient avoir tendance à se séparer de la mère patrie, et la mère patrie. Donc c'est un projet de constitution d'institutions dites impériales qui seraient communes à la Grande-Bretagne et à l'ensemble des dominions, puisque les dominions sont de plus en plus indépendants de fait par rapport à la mère patrie. Alors certes aussi, 1880, c'est le début de la ruée vers l'Afrique, le Scramble for Africa, et ce qui donnera l'illusion historique d'une compétition acharnée pour s'emparer des dernières terres qui n'étaient pas sous le contrôle ou la domination européenne. Mais il faut bien voir que dans le Scramble for Africa, la motivation essentielle est une motivation de pouvoir. On n'est pas une grande puissance si on n'a pas des colonies. Mais ce n'est pas des raisons économiques, parce que l'Afrique noire, ça ne rapporte rien. Et c'est plutôt une charge financière pour les puissances coloniales. Alors, on essaye de faire croire aux opinions publiques que ça rapporte, mais économiquement, non. L'impérialisme est une manifestation de puissance. Elle n'est pas une recherche de ressources économiques, en tout cas, dans cette période. Ce qui est la vraie arme de la domination européenne dans le monde, ce n'est pas la conquête militaire, c'est l'endettement. L'essentiel des grands pays non occidentaux sont de plus en plus endettés envers la finance européenne, et c'est par le biais de la finance que l'Europe prend le contrôle de l'Empire ottoman, de l'Égypte, de l'Iran, enfin de la Perse, de la Chine, etc. Les seuls qui échappent à l'endettement, ce sont les Japonais, parce qu'ils ont compris. Et donc, ils n'auront pas de recours à la finance européenne. Et donc, l'endettement est un endettement qui fait correspondre au projet de domination européenne des millions de petits créanciers européens, puisque les portefeuilles des bourgeois français, anglais et autres, mais surtout français et anglais, sont largement en partie composés de dettes ottomanes, de dettes égyptiennes, de dettes chinoises, etc. D'où le fait que les créanciers représentent des groupes de pression pour les gouvernements des sociétés démocratiques. Puisque, évidemment, ce sont aussi des électeurs, sans parler du fait que certains hommes politiques peuvent avoir une partie de leur économie en dette orientale, ne serait-ce que le premier ministre britannique Gladstone, dont une partie importante du patrimoine est en dette égyptienne. C'est le mécanisme de l'endettement qui pousse à la domination et qui en même temps crée la volonté, enfin un soutien politique dans les pays démocratiques ou libéraux pour la domination européenne. Alors en France, on a un très mauvais souvenir de ça parce que ça rappelle l'expédition du Mexique sous Napoléon III qui avait été liée à des questions de la dette mexicaine. Mais si vous avez le groupe des créanciers, vous avez les géopoliticiens, puisque c'est à peu près dans cette période que cette discipline est inventée. En tout cas, les Anglais ont parfaitement compris que le canal de Suez était devenu l'artère majeure de l'Empire britannique. D'où d'ailleurs la justification. On disait Palmerston avait eu raison de s'opposer à la création du canal de Suez parce que c'était un danger pour l'Empire britannique. Mais une fois qu'il existe, il faut que nous en prenions le contrôle. Nous avons été opposés à sa construction. Maintenant qu'il est là, il faut qu'il soit entre nos mains. Alors, une des raisons de l'importance du canal de Suez, c'est le charbon. Les routes des Indes et de l'Extrême-Orient, ce sont des routes de dépôt de charbon, puisque toute la marine commerciale est maintenant une marine de navigation à vapeur. Seuls les voiliers prennent encore la route du cap et du contournement de l'Afrique, parce qu'ils ne sont pas liés aux dépôts de charbon. D'où, par exemple, vous savez, les fameux clippers de la fin du 19e siècle, qui sont la dernière expression des grands navires à voile avant leur disparition au début du XXe siècle. Mais donc, Suez, la route de Suez, c'est une route de dépôt de charbon qui continue par Aden, etc., jusqu'à l'Inde et la Chine. La voile ne sert plus que pour accéder aux régions inaccessibles aux vapeurs, faute de dépôt. Alors, le statut juridique de la Compagnie du Canal est très ambigu. C'est une compagnie qui est devenue universelle, donc on dirait aujourd'hui internationale, qui n'a qu'une concession de 99 ans par rapport à la date d'ouverture, qui est donc 1869. Et en dépit de l'achat de l'action des actions du Khedive par le gouvernement britannique, la direction de la compagnie reste largement française. Et sa neutralité politique n'est qu'une neutralité de fait. Durant la guerre de 1877-78, la France et la Grande-Bretagne ont fait savoir à la Russie qu'il était interdit de se rapprocher du canal de Suez. C'était un casus belli pour les deux grandes puissances maritimes que de voir des navires de guerre russes à proximité du canal de Suez. Mais c'est tout, parce qu'il n'y a pas de statut juridique assuré. D'ailleurs, les Russes ont bénéficié durant toute la guerre dans l'Empire ottoman du maintien des capitulations. Alors, dans le jeu de l'Égypte, il est là. C'est que le mouvement de contestation qui s'est développé depuis 1881 en Égypte remet en cause tous les instruments de la domination européenne, même si les acteurs égyptiens disent le contraire. Dans le réel, les Européens ne se font pas d'illusions. Si un vrai mouvement national avec l'Égypte aux Égyptiens se prononce, le danger est de voir les Européens chassés d'Égypte et de voir, à un moment ou à un autre, un non-paiement de la dette égyptienne. Et donc, ce que souhaiterait la France et la Grande-Bretagne, ce serait un retour à un régime qui devient autoritaire, qui pourrait faire quelques réformes, comme au temps du premier ministériat de Riaz Pacha, avec éventuellement l'amorce d'un système représentatif comme à l'époque de Sharif Pacha. C'est là tout le problème qui dure jusqu'à aujourd'hui, soyons clairs. Nous avons toujours une préférence pour les régimes autoritaires dans ces pays-là parce qu'ils maintiennent l'ordre et garantissent nos intérêts. Et alors évidemment, on a des problèmes quand ces régimes se tombent. Et c'est encore plus embêtant quand les gens contestent ces régimes ont nos propres idées. Donc on est vraiment embêté à ce moment-là. Alors, on ne pense pas encore au printemps 1882 à une intervention militaire. Mais on a tout à fait une caractéristique de ce qui deviendra la règle dans le Moyen-Orient du XXe siècle et début du XXe siècle, c'est-à-dire de l'erreur de calcul. C'est-à-dire qu'on a une telle multiplicité d'acteurs et de facteurs qui sont en jeu que les erreurs de calcul prennent un aspect systémique. Alors, avant, ça existait aussi. Mais quand il fallait 3 semaines ou 15 jours pour qu'une nouvelle vienne du Caire à Londres et à Paris, on avait le temps de réfléchir. Parce que, de toute façon, quand on prenait une décision à Paris ou à Londres, les choses avaient déjà changé sur place. Mais maintenant qu'on est en temps réel, on n'a plus ce coussin d'amortissement qu'il y avait dans les époques précédentes. Alors, dans les dossiers égyptiens, les dépêches des agences de presse, c'est-à-dire les deux grandes agences de presse mondiales qui existent à l'époque, l'agence Reuters et l'agence Havas, l'anglaise c'est la Reuters et l'Havas c'est la française évidemment, jouent un grand rôle. On sait depuis la fameuse dépêche d'Ems de 1870 combien certaines dépêches de presse tronquées peuvent déclencher une guerre. Et donc, la situation est qu'au Caire, les consuls sont maintenant constamment en relation avec leur ministère par télégraphe et réciproquement. Et de la même façon, une décision peut être prise immédiatement puisque les navires de guerre sont plutôt destinés dans cette période à rester dans les ports en attente d'instruction. Parce que avant l'arrivée de la TSF au début du XXe siècle, quand ils sont en mer, on ne peut plus joindre les bateaux. Donc les batteurs de guerre, ils sont dans les ports en attente du télégraphe qui donnera des instructions. Mais inversement, à partir du moment où les navires de guerre sont dans les ports en attente d'instructions, un simple télégramme peut les faire partir à destination de tel ou tel pays, de tel ou tel port, etc. Là encore, le degré de réaction est infiniment plus rapide que dans les époques précédentes, où, je vous rappelle par exemple, la flotte française et britannique en 1828 avait coulé par erreur la flotte ottomane. C'était un accident. Et contraire aux instructions, ça c'est plus possible en 1882 parce qu'on est toujours en relation télégraphique quand on est une liaison à terre avec la métropole. Donc, l'abolition de la distance accroît le nombre d'acteurs en interaction immédiate à un moment où les poids des opinions publiques comptent de plus en plus. Alors, le mécanisme de la crise, c'est le fait que Londres et Paris n'arrivent pas à définir une politique commune. Évidemment, toutes les deux pays sont hostiles au mouvement national parce qu'ils considèrent qu'ils contestent la présence européenne. Mais on ne sait pas quoi faire. Et En plus, l'Angleterre est très préoccupée par l'affaire irlandaise. C'est le 7 mai 1882 que la responsable en charge des affaires irlandaises est assassinée à Dublin par les membres d'une société secrète irlandaise, ce qui est un choc traumatique pour la Grande-Bretagne. On considère aussi que c'est le début de ce qu'on appellera le terrorisme en Europe de l'Ouest, si on ne considère pas le carbonarisme des périodes précédentes. C'est l'Irish Brotherhood qui a fait l'attentat, c'est-à-dire l'ancêtre de l'IRA. Mais donc cet attentat est un véritable traumatisme, d'autant plus qu'on a un gouvernement libéral à Londres qui était plutôt favorable à certaines revendications irlandaises. Du coup, Gladstone est obligé d'avoir une politique de fermeté dans le dossier irlandais, et ça s'implique aussi sur les autres dossiers, en particulier dans le dossier égyptien. Et donc, en Égypte, on était dans le suivi de ce qu'on avait appelé l'affaire des officiers turco-circassiens qui avaient été accusés d'avoir cherché à assassiner les leaders du mouvement national. Ils avaient donc été condamnés à des peines d'exil. Et le calife avait essayé de s'opposer en disant que comme c'était des officiers supérieurs, il aurait fallu le jugement du sultan Abdulhamid, puisqu'à ce rang-là, le sultan avait une responsabilité. Et puis on avait transigé et donc on avait accepté de ne pas les envoyer au Soudan, où il fait vraiment mauvais, même pour des Égyptiens, et de les exiler ailleurs qu'en Égypte. Mais le problème est de savoir, et c'est là où le contentieux se construit, si ces officiers condamnés restent inscrits dans l'armée égyptienne ou s'ils sont chassé de l'armée. Et Tewfik, donc le calife, fait appel au consul pour demander de s'opposer, de le soutenir dans son opposition à l'élimination des officiers. Et dans ce moment-là, les mouvements nationaux leur disent « Mais si vous laissez au calife le contrôle de la situation, la sécurité des Européens en Égypte va se trouver remise en cause. » Donc, c'est la menace permanente, c'est l'enjeu, si vous voulez. À ce moment-là, il y a des milliers d'Européens en Égypte, leur sécurité pourrait être mise en cause. Alors, chacun des partis, c'est-à-dire le Kédiv ou le mouvement national, dit « Si vous ne me laissez pas le pouvoir, la sécurité sera en cause, non pas de mon fait, mais du fait de la compétence ou de la méchanceté de l'autre partie. » Donc les consuls s'adressent au Conseil des ministres pour savoir si la vraie menace, et la menace existe ou non, et les ministres répondent vertueusement que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, le gouvernement, tenu par le mouvement national, appelle à la convocation de la Chambre des notables sans l'accord du Khedive, pour saisir la Chambre des députés ou des notables des situations d'urgence dans lesquelles se trouve le pays. Alors donc, on est dans une situation que les consuls considèrent comme révolutionnaire, puisque une telle réunion de la Chambre pourrait conduire à un vote de déchéance du Khedive. Il faut faire quelque chose. Et donc, c'est une série de télégrammes qui sont envoyés entre les consuls Paris et Londres pour savoir ce que l'on doit faire. Et donc, finalement, Paris et Londres décident d'envoyer un détachement naval au large d'Alexandrie, afin d'assurer la sécurité des Européens. ce qui est un problème un peu compliqué parce qu'on ne va pas faire remonter jusqu'au Caire la navire de guerre. Hein. Lord Salisbury disera plus tard dans les années 1895 à propos des Arméniens que malheureusement les navires de guerre ne franchissent pas le Taurus. Dans le cas précis, la diplomatie de la canonnière est un instrument de pression sur un gouvernement. Mais quand vous avez une situation d'opposition entre deux forces politiques, on ne sait plus sur qui on fait pression. Et il y a donc confusion, à moins d'avoir les moyens de faire un débarquement armé pour intervenir sur place. Donc, la seule décision qui est prise à ce moment-là est de faire la concentration navale française et britannique en Crète, dans la baie de la Souda, qui est un des plus beaux ports naturels de la Méditerranée. Aujourd'hui, c'est une base de l'OTAN. Donc, de concentrer les navires de guerre des deux pays pour ensuite les envoyer au large d'Alexandrie. Alors, évidemment, l'annonce qu'un mouvement naval franco-britannique est lancé se répercute sur la vie politique égyptienne. Et donc, les tensions montent, mais là encore, on ne peut pas considérer que le clivage entre turco-circassiens d'un côté et égyptiens de souche fait là est un clivage complètement opérant. Vous avez un clivage modéré-radicaux. Il y a plus de modérés chez les turco-circassiens que chez les fellahs, mais on en trouve dans les deux catégories. Le gouvernement favorable au Parti national dit qu'il est prêt à démissionner, mais que s'il démissionne, il n'est plus garant de la sécurité des Européens. Toujours la fameuse menace. Et finalement, c'est Abdulhamid qui dit que cette histoire d'officier n'a aucune importance et qu'il faut qu'on calme la situation. Le ministère est maintenu et les officiers partiront discrètement à l'étranger. En tout cas, le 18 mai 1882, les navires de guerre français et britanniques arrivent au large d'Alexandrie. Et évidemment que s'ils sont devant Alexandrie, ils sont aussi à Alexandrie même, puisqu'ils sont reliés par câble, enfin, l'un des navires au moins est relié par câble au réseau télégraphique égyptien qui lui est même connecté à l'Europe. C'est-à-dire que maintenant, les amiraux sont en contact direct avec leur ministère de la Marine à Londres et à Paris. Et tous les mouillages ne se comprennent que par la possibilité de se reconnecter au réseau télégraphique local, lui-même connecté au réseau mondial. Alors, Blount à Londres s'occupe et s'active pour prendre la défense d'Ourabi et il s'adresse en même temps aux Égyptiens pour faire un front d'unité nationale, sinon l'Égypte sera annexée par les Britanniques. Alors, lui, il n'est pas dupe parce que tous ces conseils diplomatiques que Blount envoie de Londres aux leaders du mouvement national, il sait parfaitement que le gouvernement britannique en a communication. Et de même qu'il a communication des réponses de ses interlocuteurs par télégraphe. Donc il fait exprès justement de faire dire des choses pour que les autres répondent, en sachant pertinemment que ce qui est important, ce n'est pas la réponse qu'il reçoit lui, mais la lecture que son gouvernement fait faire des télégrammes qu'il reçoit d'Égypte. Ça, c'est les prodiges de la communication moderne. Et de l'autre côté, notre ami français, le Suisse Ninette, John Ninette, entretient une correspondance avec Blount pour lui affirmer que tout est calme en Égypte, Et Ninet entretient une campagne de presse en Europe pour expliquer qu'il n'y a pas du tout de désordre en Égypte, tandis que les correspondants de la presse britannique en Égypte, qui eux sont liés aux colonies européennes, expliquent le contraire pour attirer justement l'attention. Alors c'est dans ce thème-là que, dans les articles de Ninette, qu'on trouve ce qu'on trouvera jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le thème du deux poids, deux mesures. Un rabbi disait à un ami intime hier, « Voyez ce que font les Irlandais en Irlande. À tort ou à droit, ajoutait-il, on y tue, on y assassine chaque jour des personnages appartenant à toutes les sphères de la société. Selon moi, ces actes se passeraient à peine dans les montagnes du Tibet. » Eh bien, est-ce que le Times demande une intervention armée ? Non, il s'en garde bien. C'est pour l'Égypte qu'il réserve ses colères lorsqu'un Anglais arrogant qui a battu un ânier en reçoit un coup mérité. Les Anglais et les Irlandais ont le privilège des meurtres agraires et politiques. Ces assassinats en famille ont leur raison d'être et ne regardent personne. Mais si nous demandons la révision d'un traité léonin et onéreux, si nous cherchons à nous donner des institutions libérales, si nous voulons nous gouverner chez nous, respirer l'air pur de notre pays longtemps comprimé, le grand journal de Londres et beaucoup de ses confrères de Paris crient « haro » sur nous et nous menacent d'une ruineuse et criminelle intervention. Est-ce là juste ? Non, c'est odieux. Donc, vous voyez, le thème du « deux poids, deux mesures » parfaitement exprimé dans cette correspondance d'Égypte de 1882. Alors, Blount, puis dans la presse britannique, présente Orabi comme étant le Garibaldi égyptien, Garibaldi qui va juste mourir à ce moment-là, étant quasiment une idole européenne à cette partie de l'histoire. Alors, l'entente entre le gouvernement français de Freycinet et le gouvernement de Gladstone, c'est d'essayer de rétablir l'autorité du Khédive en Égypte. Et les Français renoncent à l'idée de la déchéance de Tewfik Pacha et d'une intervention turque. Je passe sur la correspondance. Mais en tout cas, l'effet moral qu'on attendait de l'arrivée de la flotte franco-britannique devant Alexandrie est nul. Et cela ne change rien aux données de la situation égyptienne. Alors, les marins, eux, se trouvent dans une situation où ils n'ont pas d'instruction. Ni les consuls d'ailleurs, puisque la seule chose qu'on demande, c'est de bouger que si la sécurité des Européens se trouve en jeu. Alors, on tente de faire une proposition aux officiers égyptiens en disant « Cédez le pouvoir au Khédive et on vous laissera partir avec vos biens à l'extérieur de l'exil ». Donc, c'est ce que, entre autres, le consul de France explique à Orabi Pacha, mais ne refuse pas. Au contraire, vous avez une espèce de mouvement d'union nationale en Égypte sous forme de lettres, de pétitions, de notables soutenant Orabi et lui l'adjurant de ne pas céder. C'est un moment où, dans les textes, on voit la fusion entre ce qu'on appelle le parti national, le Hizb al-Watani, et le parti de Dieu, le Hezbollah, fusionner dans les perspectives ou les discours égyptiens. Alors, les Européens espèrent que le président de la Chambre, ce grand propriétaire foncier du Sud, le maître Issaïd, Sultan Pacha, lui pourra agir pour raisonner tout le monde. Mais Sultan comprend qu'il n'a pas les moyens. Une tentative de créer un gouvernement Sharif Pacha échoue à son tour le 27 mai. Et donc, le Khédive, non seulement n'a pas réussi à reprendre le contrôle de l'armée, mais Al-Azhar entre à son tour dans la danse, si j'ose dire, et les Rolama de l'Azhar, la grande institution religieuse sunnite égyptienne, n'hésite pas à envisager un anathème, un takfir, donc une déclaration comme étant infidèle, destinée au khédive pour imposer sa déchéance. Et donc, devant la montée des oppositions et le risque d'une condamnation islamique, le khédive est obligé de s'incliner. Et le 28 mai 1882, Wahhabi Pacha est chargé, revient au ministère de la guerre. Donc nous sommes en plein suspense et nous allons faire la pause. Comme ça, vous aurez encore une attente angoissante avant la reprise.